Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct et à l'écoute de l'émission Constellation. L'audace et le panache de Théophile Gautier enluminent l'histoire de la littérature française, puisqu'une part de sa légende est due au fameux gilet rouge arboré par le poète lors de la première de la pièce Hernani, le 25 février 1830, consacrant ainsi l'affirmation du théâtre romantique et même l'acte de naissance, ou plutôt de reconnaissance, du romantisme français. Nos voisins disent Shakespeare et Goethe, nous pouvons leur répondre Victor Hugo et Théophile Gautier, écrivait Baudelaire en 1859, 2 ans après avoir offert à son maître et ami la somptueuse dédicace des Fleurs du Mal. Comme le souligne la préface de Claudine Gautot-Mersch pour l'édition de poche NRF Poésie Gallimard, le célèbre recueil de Théophile Gautier, Émaux et Camées, je la cite, est très loin de représenter toute la poésie de Gautier. C'est le dernier recueil, le plus achevé, l'aboutissement de l'œuvre, mais un aboutissement, somme toute, fort éloigné du point de départ. C'est pourquoi nous donnons en appendice, c'est ce que précise encore une fois cette préface, c'est pourquoi nous donnons en appendice de notre édition témoignage d'un autre Gautier, Albertus. Albertus, écrit en 1831-1832, Gautier avait 20 ans, légende théologique, semi-diabolique, semi-fashionable, poème fantastique, où le goût du macabre le dispute au pittoresque et à l'autoparodie la plus amusante. Et un peu plus loin, la préfacière ajoute « La préface d'Émaux et Camées proclame la volonté de séparer l'art de la vie. À l'abri derrière les vitres, retranché du monde et de l'ouragan des révolutions, le poète se consacre à son œuvre. » Victor Hugo, on le sait, réagit vivement à cette attitude dans la lettre où il remercie Baudelaire de sa notice sur Gautier le 6 octobre 1859. « Je n'ai jamais dit l'art pour l'art, j'ai toujours dit l'art pour le progrès. » Voilà la position de Hugo. Ceci n'empêchera pas les tenants de l'art pour l'art de continuer à se proclamer ses disciples. D'où ce quatrain de Théodore de Banville, je le cite, « Gautier, parmi ses joailliers, est prince, et le comte de Lille forge l'or dans ses ateliers, mais le père est là-bas dans l'île. » Il s'agit bien évidemment de Guernesey, où Victor Hugo s'est exilé. Voilà peut-être la nécessité de citer la préface au recueil Émaux et Camées, préface sous la forme d'un sonnet dans lequel deux noms sont parfaitement exotiques, le nom de Nissami et le nom de Hafiz, qui désignent des poètes persans cités par Goethe dans son recueil poétique Le Divan occidental. Je lis ce sonnet qui explicite la position de Théophile Gautier, qui se veut à l'écart des grandes révolutions. Il y a eu, on s'en souvient, celle de 1830, de juillet 1830, et aussi celle de 1848. Voici ce sonnet. Pendant les guerres de l'Empire, Goethe, au bruit du canon brutal, fit le divan occidental, fraîche oasis où l'art respire. Pour Nizami, quittant Shakespeare, il se parfuma de santal et sur un maître oriental nota le chant Gudule soupire. Comme Goethe sur son divan, à Weimar s'isolait des choses, et d'Affise effeuillait les roses, sans prendre garde à l'ouragan qui fouettait mes vitres fermées, moi j'ai fait émaux et camées. On voit que, en effet, Gautier, théoricien de l'art pour l'art, veut se tenir à l'écart de ce qu'il nomme l'ouragan des révolutions. Voici d'ailleurs dans quel sens on peut envisager la composition des mots accamés et la caractérisation de la plupart de ses poèmes, ainsi que l'indique la préfacière dont j'ai parlé, Claudine Gautot-Mersch. Je la cite encore. Ce qui frappe dans bon nombre de poèmes du recueil, c'est le refus du grand sujet, et même du sujet tout court. Une montre arrêtée, une cheminée qui fume, un accroche-cœur sur une joue, un prénom à consonance antique, le soulagement d'avoir fini sa besogne. Voilà quelques-uns de ces thèmes d'inspiration qu'il traite parfois avec tant de simplicité, de naïveté, que ces poèmes, pourtant fort concertés, en prennent un air ingénu, presque enfantin. Il peut aussi, décidant de changer le dictionnaire en palette, consacrer près de 20 strophes à décrire toutes les nuances du blanc selon les différentes matières, peau, étoffe, neige, fourrure, plumage, pierre, fleurs, insectes. C'est la symphonie en blanc majeur. Ou il peut aussi tenter, à travers une série de poèmes, de rendre la chair féminine, tour à tour marbre, nacre, neige, cire pâle ou satin. Et justement, lisons le poème intitulé « La symphonie en blanc majeur » d'une étonnante nouveauté, puisqu'elle préfigure en quelque sorte le carré blanc sur blanc du peintre russe Casimir Malevitch. Voici cette symphonie en blanc majeur. De leur col blanc, courbant les lignes, on voit dans les contes du Nord, sur le vieux Rhin, des femmes cygnes nager en chantant près du bord, ou, suspendant à quelques branches le plumage qui les revêt, faire luire leur peau plus blanche que la neige de leur duvet. De ces femmes, il en est une qui, chez nous, descend quelquefois, blanche comme le clair de lune, sur les glaciers dans les cieux froids. Conviant la vue enivrée de sa boréale fraîcheur à des régales de chair nacrée, à des débauches de blancheur. Son sein, neige moulée en globe, contre les caméliens blancs et le blanc satin de sa robe, soutient des combats insolents. Dans ces grandes batailles blanches, satins et fleurs ont le dessous et, sans demander leur revanche, jaunissent comme des jaloux. Sur les blancheurs de son épaule, Paros, au grain éblouissant, comme dans une nuit du pôle, un givre invisible descend. De quel mica de neige vierge, de quelle moelle de roseau, de quelle hostie et de quel cierge a-t-on fait le blanc de sa peau? A-t-on pris la goutte lactée, tachant l'azur du ciel d'hiver, le lys à la pulpe argentée, la blanche écume de la mer? Le marbre blanc, chair froide et pâle, où vivent les divinités? L'argent mat, la laiteuse opale, qui rise de vagues clartés? L'ivoire où ses mains ont des ailes et, comme des papillons blancs, sur la pointe des notes frêles, suspendent leurs baisers tremblants. L'hermine, vierge de souillure, qui, pour abriter leurs frissons, ouate de sa blanche fourrure les épaules et les blasons. Le vif argent aux fleurs fantasques, dont les vitraux sont ramagés, les blanches dentelles des vasques, pleurent de l'ondine en l'air figé. l'aubépine de mai qui plie sous les blancs frimas de ses fleurs, l'albâtre où la mélancolie aime à retrouver ses pâleurs. Le duvet blanc de la colombe, neigeant sur les toits du manoir, et la stalactite qui tombe, larme blanche de l'antre noir. Des Groenlandes et des Norvèges, vient-elle avec Séraphita? Est-ce la Madone des neiges, un sphinx blanc que l'hiver sculpta? Sphinx, enterré par l'avalanche, gardien des glaciers étoilés, et qui, sous sa poitrine blanche, cache de blancs secrets gelés. Sous la glace où calme il repose, oh, qui pourra fondre ce cœur? Oh, qui pourra mettre un ton rose dans cette implacable blancheur? Lisons à présent d'autres poèmes extraits de ce même recueil, Émo et Camé. Tout d'abord, un poème intitulé « Coquetterie posthume », où c'est la voix d'une femme, on va le voir, qui s'exprime. Je précise aussi que parce que je l'ignorais, il s'agit à un moment donné de la fleur qu'on nomme l'immortel et qui, en effet, est de couleur jaune. Voici ce poème. Quand je mourrai, que l'on me mette, avant de clouer mon cercueil, un peu de rouge à la pommette, un peu de noir au bord de l'œil. Car je veux, dans ma bière close, comme le soir de son aveu, rester éternellement rose, avec du kohl sous mon œil bleu. Pas de sueur en toile fine, mais drapez-moi dans les plis blancs de ma robe de mousseline, de ma robe à 13 volants. C'est ma parure préférée. Je la portais quand je lui plus. Son premier regard l'a sacrée, et depuis je ne la mis plus. Posez-moi, sans jaune immortel, sans coussin de larmes brodées, sur mon oreiller de dentelle, de ma chevelure inondée. Cet oreiller, dans les nuits folles, a vu dormir nos fronts unis et sous le drap noir des gondoles, compter nos baisers infinis. Entre mes mains de cire pâle que la prière réunit, tourné ce chapelet d'opale par le pape à Rome béni, je l'égrainerai dans la couche d'où nul encore ne s'est levé. Sa bouche en a dit sur ma bouche chaque pater et chaque ave. Un autre poème intitulé « Diamant du cœur ». Tout amoureux de sa maîtresse, sur son cœur ou dans son tiroir, possède un gage qu'il caresse au jour de regret ou d'espoir. L'un d'une chevelure noire, par un sourire encouragé, a pris une boucle que moire un reflet bleu d'aile de jais. L'autre a, sur un cou blanc qui ploie, coupé par derrière un flocon, retors et fin comme la soie que l'on dévide du cocon. Un troisième, au fond d'une boîte, reliquaire du souvenir, cache un gant blanc de forme étroite où nulle main ne peut tenir. Cet autre, pour s'en faire un charme, dans un sachet d'un chiffre orné, coud des violettes de Parme, frais cadeau qu'on reprend fané. Celui-ci baise la pantoufle que Cendrillon perdit un soir. Et celui-ci conserve un souffle dans la barbe d'un masque noir. Moi, je n'ai ni boucle lustrée, ni gants, ni bouquet, ni souliers, mais je garde, empreinte adorée, une larme sur un papier, pure rosée, unique goutte d'un ciel d'azur tombé un jour, joyau sans prix, perle dissoute dans la coupe de mon amour. Et, pour moi, cette obscure tache reluit comme un écrin d'ophir et du vélin bleu se détache, diamant éclos d'un saphir. Cette larme qui fait ma joie roula, trésor inespéré, sur un de mes vers qu'elle noie d'un œil qui n'a jamais pleuré. Et puisque, en ces jours de grisaille, à Périgueux et autour de Périgueux, nous attendons peut-être impatiemment le printemps, voici un poème qui s'intitule précisément « Premier sourire du printemps ». Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletants, Mars, qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement, lorsque tout dort, il repasse des collerettes et cisèle des boutons d'or. Dans le verger et dans la vigne, il s'en va, furtif perruquier, avec une houppe de cygne, poudrer à frimas l'amandier. La nature au lit se repose. Lui descend au jardin désert et lasse les boutons de rose dans leur corset de velours vert. Tout en composant des solfèges qu'au merle il siffle à mi-voix, il sème auprès les personnages et les violettes au bois. Sur le cresson de la fontaine, où le cerf boit l'oreille au guet, de sa main cachée, il égrène les grelots d'argent du muguet. Sous l'herbe, pour que tu l'accueilles, il met la fraise au teint vermeil et te tresse un chapeau de feuilles pour te garantir du soleil. Puis, lorsque sa besogne est faite et que son règne va finir, au seuil d'avril, tournant la tête, il dit « Printemps, tu peux venir. » Cet autre poème, dont on appréciera la sensualité, intitulé « À une robe rose ». Que tu me plais dans cette robe qui te déshabille si bien, faisant jaillir ta gorge en globe, montrant tout nu ton bras païen. Frêle comme une aile d'abeille, frais comme un cœur de roseté, son tissu caresse vermeil, voltige autour de ta beauté. De l'épiderme sur la soie glissent des frissons argentés et l'étoffe à la chair renvoie ses éclairs roses reflétés. D'où te vient cette robe étrange qui semble faite de ta chair, trame vivante qui mélange avec ta peau son rose clair? Est-ce à la rougeur de l'aurore, à la coquille de Vénus, aux boutons de sein près d'éclore, que sont pris ces tons inconnus? Ou bien l'étoffe est-elle teinte dans les roses de ta pudeur? Non, 20 fois modelée et peinte, ta forme connaît sa splendeur. Jetant le voile qui te pèse, réalité que l'art rêva, comme la princesse Borghèse, tu poserais pour Canova. Et ces plis roses sont les lèvres de mes désirs inapaisés, mettant au corps dont tu les sèvres une tunique de baisers. Thank you. au cours de cette émission, vous avez pu entendre trois pièces de Debussy. La première des deux arabesques interprétées par Nicolas Luganski qui s'exprime en ce moment sur France Musique et qui sort un disque en mars qui sont des transcriptions de Wagner. La deuxième pièce, toujours de Debussy, intitulée Rêverie, interprétée par Alice Sarah Ott. Et enfin, la troisième pièce, toujours de Debussy, une ballade, interprétée au piano, bien sûr, par Jean-Yves Thibaudet. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.